Décryptage. Anne Corpet.
Une amitié ancrée à travers les siècles. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a salué le lien qui unit la France aux États-Unis à son arrivée cet après-midi à la Maison-Blanche. Le président français est reçu en grande pompe pour une visite d'État à Washington. Il est le premier à bénéficier des fastes de ce protocole depuis l'arrivée de Joe Biden à la présidence. La proximité entre les deux chefs d'État est réelle. Ils s'entretiennent souvent par téléphone, mais cela n'empêche pas les désaccords sur l'Ukraine et surtout sur la Chine. Français et Américains n'ont pas forcément la même approche et il y a des sujets de friction. La France dénonce notamment l'aspect protectionniste de l'Inflation Reduction Act, la loi votée l'été dernier par le Congrès américain. France, États-Unis, une alliance solide qui n'empêche pas les différends. C'est le sujet de décryptage ce soir. Et avec nous en studio, Gesine Weber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au bureau parisien du German Marshall Fund. Merci d'être avec nous. Et tout d'abord, je voulais vous faire écouter les quelques mots du président français à son arrivée à Washington.
C'est une histoire de fraternité d'armes et de sang. Et même quand il y a des vicissitudes, c'est plus fort que tout. Les Français étaient là pour bâtir cette nation, la rendre indépendante. Et des Américains étaient sur notre sol pour libérer notre pays, à chaque fois que notre liberté, notre souveraineté nationale a été en jeu. Et au fond, à l'échelle des siècles, c'est cette histoire qui compte et qui structure tout.
La France est le plus vieil allié des États-Unis, rappelle Emmanuel Macron. C'est le premier président français qui a droit à deux visites d'État sur le sol américain, puisqu'il en a eu une sous Donald Trump. Sur le plan symbolique, c'est important ?
Oui, c'est absolument important. Et c'est surtout très important dans le contexte post-AUKUS, donc l'affaire des sous-marins de l'année dernière.
Oui, ces sous-marins que la France avait vendus aux Australiens et dont les Américains ont ravi la commande.
Oui, exactement. Et ce pacte trilatéral avait été décrit à cette époque comme un coup dans le dos par la France. Et en effet, c'est un comportement qui était juste absolument inacceptable entre alliés. Et c'est aussi pourquoi il y avait une certaine mise en question de la fiabilité des États-Unis ici en France à cette époque. Donc maintenant, il y a une année qui est passée, il y a le conflit ou la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui a complètement changé la donnée géopolitique. Donc maintenant, il faut avancer, il faut essayer de surmonter ce quasi-traumatisme dans la relation bilatérale.
Oui, parce qu'elle avait donné lieu au rappel de l'ambassadeur français à Paris, ce qui était quand même du jamais vu.
Oui, exactement. Donc ça, c'était vraiment jamais vu aussi dans la mesure où la communication publique des deux côtés sur cet incident, si on veut l'appeler comme ça, a vraiment pas caché les divergences et aussi pas caché la déception de la France à ce moment-là. Et après, on a quand même vu un rapprochement des deux par le communiqué de Rome qui s'est fait pendant le sommet G7 l'année dernière, où les deux partenaires ont annoncé une coopération approfondie sur plusieurs enjeux, comme par exemple l'espace. Mais depuis cela, on n'a pas vu de grands avancées entre les deux. Donc maintenant, il semble, dans le contexte géopolitique qu'on a à ce moment, il faut que les deux trouvent un agenda positif pour pouvoir avancer et pour laisser cette affaire derrière eux.
Alors, vous l'avez dit, depuis cet épisode des sous-marins, les plaques ont sérieusement bougé, avec notamment le conflit en Ukraine, qui a évidemment resserré les liens entre les alliés. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui, depuis Washington, qu'il s'entretiendrait dans les prochains jours avec Vladimir Poutine. Cette relation que le président français continue d'avoir avec le président russe, elle est approuvée par Joe Biden parce que lui ne parle pas avec Vladimir Poutine.
C'est une bonne question, mais aussi on ne voit pas que Biden s'y oppose publiquement. Et je pense que ça, c'est déjà un très bon signe. Surtout pour Macron, c'est un point très important à communiquer vis-à-vis des partenaires européens. Donc pour lui, c'est en quelque sorte une victoire relative dans la mesure où il n'y a pas de, pas d'initiative de Washington ou apparemment pas de pression de la part de Washington de ne pas entamer ce, ces échanges ou ce dialogue. Donc surtout vis-à-vis des partenaires de l'Europe orientale qui sont davantage critiques par rapport à ces échanges, c'est un soutien très important à Emmanuel Macron, même s'il ne s'agit pas forcément d'un soutien explicite.
Oui, parce que Joe Biden a qualifié Poutine de criminel de guerre, de boucher, et ça, ça avait été critiqué par Emmanuel Macron. Mais sur le fond, quid de la question cruciale de l'ouverture ou pas, de la nécessité de pousser Kiev vers l'ouverture de négociations ? Là-dessus, on a l'impression que Paris est plus enclin à pousser ce dossier. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, le président l'a aussi confirmé hier dans son discours à l'ambassade française. C'est l'Ukraine qui va déterminer les termes des négociations et c'est l'Ukraine qui va déclarer quand on va commencer ces négociations. Cette approche n'est pas contestée dans la communauté occidentale ou parmi les alliés. Et je pense aussi que Emmanuel Macron va y tenir. Néanmoins, moi, à un point... je pense qu'on va vraiment se poser la question des négociations, que ce soit à Paris, à Berlin ou à Washington. Et dans ce contexte, il va sûrement aussi être utile d'avoir au moins une ligne de communication avec Moscou qui fonctionne encore.
Et ça, c'est sur les épaules d'Emmanuel Macron ?
À ce moment, il semble que c'est le cas, oui.
Alors, les Américains estiment que la France devrait apporter plus d'aide à l'Ukraine, d'aide matérielle, d'aide militaire. C'est un point de discorde entre les deux pays ?
Oui, tout à fait. Et le point de discorde est surtout celui-ci de la transparence. Comme vous le savez peut-être, il y a l'Institut de Kiel qui régulièrement publie les chiffres sur l'aide militaire qui est envoyée en Ukraine par les différents États. Mais les chiffres que donne, par exemple, Sébastien Lecornu sont beaucoup plus élevés. Donc, un point de critique très important de la part des États-Unis envers la France, c'est le manque de transparence dans, dans l'aide militaire. Et en général, c'est aussi que les États-Unis demandent pas seulement la France, mais en général les Européens, de faire plus, même s'il faut dire que ce n'est pas forcément justifié, étant donné toute l'aide que surtout l'Union européenne a fournie depuis le début de la guerre, que ce soit l'aide militaire ou surtout l'aide humanitaire.
Oui, et puis face aux critiques américaines sur le manque d'engagement matériel aux côtés de l'Ukraine, les Européens disent « oui, mais nous, on paye le poids de fortes sanctions contre la Russie, et notamment sur la question énergétique. » Pardon. Un certain nombre de capitales accusent même presque ouvertement les États-Unis de profiter de la situation avec son gaz qui est vendu plus cher aux Européens qu'aux industriels américains, par exemple. Ça va être discuté par les présidents ?
Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont aborder ce sujet, mais en effet, c'est un point qu'on doit absolument discuter parce qu'il y a bien sûr l'aide directe, si vous voulez, par exemple, l'aide militaire, l'aide humanitaire qui est envoyée à l'Ukraine. Et à l'autre côté, il y a un coût secondaire dans la mesure où, par exemple, l'accueil des réfugiés ukrainiens en Europe, toute la question aussi de la reconstruction à un moment... on demandera, ou ça c'est un effort européen qui doit être fait et qui va être fait, ou qui est aussi en train d'être fait, si on parle par exemple de l'intégration des réfugiés, et aussi les citoyens européens sont beaucoup plus directement dans la vie quotidienne impactés ou affectés par cette guerre que les, par exemple, à part de l'inflation, les citoyens américains. Parce que pour nous, Européens, c'est aussi une question, comme vous l'avez dit, de l'énergie qui ne se pose pas dans cette mesure pour les Américains. qui, en revanche, sont maintenant en train de vendre leur gaz naturel aux Européens, ce qui nous met dans une autre dépendance stratégique. Et ça aussi, c'est une chose que nous devons avoir sur notre radar dans l'avenir.
En tout cas, la guerre a ressoudé l'OTAN, l'Alliance Atlantique qu'Emmanuel Macron avait déclarée en état de mort cérébrale. Mais le président français continue de croire et de pousser pour une Europe de la défense. Est-ce que les États-Unis le soutiennent sur ce sujet ?
Alors, je veux tout d'abord revenir à ce terme de l'Europe de la défense, parce qu'il est très, très important de souligner que l'Europe de la défense n'est pas un modèle alternatif à l'OTAN. L'OTAN fait complètement partie de l'Europe de la défense.
Et
je pense que c'est une chose que les États-Unis doivent commencer à comprendre. La guerre en Ukraine nous a clairement démontré la nécessité centrale de l'OTAN pour tout ce qui est la dissuasion nucléaire, pour tout ce qui concerne la défense territoriale. Là, il y a vraiment aucune mise en question de l'importance de l'OTAN. Mais à l'autre côté, la guerre en Ukraine a également démontré que l'Union européenne dispose de quelques instruments, surtout de nature financière, par exemple pour financer le soutien militaire à l'Ukraine, dont l'OTAN ne dispose pas. Et cela a vraiment souligné la complémentarité des deux institutions.
Et les Américains l'ont compris, ça ?
Je l'espère. Mais il semble que, au moins, le communiqué de presse conjointe des deux ministres de défense qui a été publié hier dit assez clairement que c'est le cas, en soulignant l'importance d'une articulation entre l'OTAN et l'Union européenne pour renforcer la défense européenne. Donc, à mon avis, on est maintenant à un point où on voit qu'il faut terminer ce débat entre est-ce que c'est l'OTAN ou l'Union européenne qui doit porter la responsabilité pour la défense européenne, parce que ce sont clairement les deux.
Alors l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas le seul sujet de politique internationale qui préoccupe Joe Biden et Emmanuel Macron. Les États-Unis et la France vont aussi parler de la Chine. Leur point de vue diffère à propos de l'approche qu'il convient d'avoir vis-à-vis de Pékin. Et à ce propos, je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron hier devant la communauté française de Washington.
Il ne faut pas se tromper, il y a un risque aujourd'hui qui est là. Et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que, face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine, et en quelque sorte que l'Europe, et donc la France, deviennent une sorte de variable d'ajustement.
Qu'est-ce que veut dire le président français ? Il a peur que l'Europe fasse les frais d'un affrontement entre les puissances chinoises et américaines ?
En quelque sorte, oui, et surtout, je pense, ce qui, pour lui, est vraiment un très, très grand souci, c'est la quasi-obsession des États-Unis avec leur rivalité avec la Chine, qui se manifeste dans toute politique et vraiment dans toute législation aussi adoptée aux États-Unis. Que ce soit en général la politique étrangère, par exemple aussi la politique étrangère des États-Unis en Afrique, en Amérique latine, tout ça est regardé à travers du prisme de la relation des États-Unis avec la Chine. Et l'Europe, dans tout cela, c'est, si vous voulez, une certaine composante où c'est un partenaire qui est crucial. Mais les États-Unis souhaitent bien sûr que les États-Unis...
Que
les Européens suivent une ligne assez similaire.
Qu'ils soient plus offensifs.
Oui, et aussi... peut-être s'inscrit vraiment dans cette idée de la compétition féroce que Biden soutient ou dont Biden parle toujours. Tandis que la France, normalement, et à mon avis, c'est aussi l'ambition française pour l'Union européenne, essaie de proposer une sorte de troisième voie européenne en étant une puissance d'équilibre, c'est-à-dire d'être une puissance qui a clairement des alliés. C'est très, très important de souligner que l'idée d'être une puissance d'équilibre ne signifie pas une équidistance entre les États-Unis et la Chine. Ça veut dire clairement, on est allié des États-Unis et on est un allié fiable.
Mais continue à être partenaire de Pékin.
L'Union européenne a une approche tripartite de partenaire, rival et compétiteur. Et c'est en effet la doctrine qui continue à guider la prise de décision dans les capitaux européens. Donc, c'est un peu plus nuancé qu'à Washington. Et aussi, l'idée de puissance d'équilibre, tout comme, je dirais aussi, l'idée d'une autonomie stratégique européenne, signifie qu'on va essayer de déterminer ou de définir nos intérêts européens, mais aussi les intérêts français, et ensuite voir s'il y a une convergence avec les intérêts américains. Dans ce cas, bien sûr, c'est la coopération qui s'impose, mais si ce n'est pas le cas, on doit trouver un moyen pour trancher les questions qui risquent de susciter des tensions et de créer des divergences.
Alors, parmi les questions qui suscitent des tensions et des divergences, j'en parlais en introduction, il y a ce fameux IRA, Inflation Reduction Act. Qu'est-ce que les Européens reprochent à cette loi et quel est le message que vient porter Emmanuel Macron à ce sujet à Washington?
Peut-être que je vais commencer par vous donner un peu de contexte sur ce sujet. Donc, cette législation donne un crédit d'impôt de 7 500 $ pour un achat de véhicules électriques neufs aux particuliers. Et aussi un crédit d'impôt pour les entreprises, pour les investissements et la production dans la véhicule électronique, mais aussi, par exemple, dans quelques énergies ou dans les technologies d'énergie renouvelable comme l'éolien, le solaire, l'hydrogène vert, etc. Donc, et cela s'applique aussi dans quelques parts pour les composantes. Donc, en effet, il y a une préférence nationale.
Oui, c'est des lois protectionnistes.
Made in America. Oui, mais en effet, c'est un protectionnisme vert, si vous voulez. Donc, on va introduire une législation pour essayer d'atteindre les objectifs pour la réduction de gaz à effet de serre en privilégiant des produits qui sont en effet produits aux États-Unis, ce qui pose extrêmement problème pour les Européens dans la mesure où, ça, par exemple, disons des Tesla américains peuvent être vendus moins cher que la Renault française.
Et à ce propos, je vous propose d'écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron toujours hier devant la communauté française de Washington.
Ce qui s'est passé ces derniers mois est un défi pour nous, parce qu'on commence à se décaler sur les sujets énergétiques et le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux États-Unis. Mais surtout, les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire, on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous. Si on se décide ensemble, si on se resynchronise. C'est fondamental.
Bon, donc on l'entend, hein, Emmanuel Macron craint des délocalisations vers les États-Unis d'entreprises européennes. Mais est-ce que le président français, qui porte là un message européen, peut obtenir la moindre avancée sur ce dossier, sur une loi qui a déjà été votée?
Alors, il peut, ou il est toujours possible de négocier, ou de renégocier, par exemple, des extensions qui existent d'ailleurs déjà pour le Canada et le Mexique. Et il faut aussi toujours garder en tête que la réunion du Conseil de commerce et des technologies aura lieu à Washington dimanche et lundi prochain. Donc ça aussi, ça serait l'occasion de vraiment revenir sur ce sujet. Donc Emmanuel Macron peut déjà tâter le terrain. pour d'éventuelles négociations et les échanges à venir.
Peut-être des exemptions pour les entreprises européennes. Gesine Weber, merci. Je rappelle que vous êtes chercheuse au bureau parisien du German Marshall Fund. Merci à Hélène Avril qui a réalisé cette émission et à Éléonore Krenik qui m'a aidée à la préparer. À bientôt.